Bonjour à tous et bienvenue sur l'Odyssée d'Asie, le podcast pour découvrir l'Asie. Je m'appelle Brison Nuffel et je vous parle depuis Hanoï au Vietnam. Sur ce podcast, vous l'aurez compris, on va parler d'Asie, à travers des voyages, à travers des interviews ou à travers des conseils. Je vais vous expliquer pourquoi Taïwan est une destination incontournable. Je vais vous partager les 5 erreurs que font la plupart des voyageurs avant un voyage au Vietnam. Et je vais vous présenter des gens qui vivent en Asie et qui sont particulièrement inspirants.
Surtout s'ils me donnent de l'argent.
Pour rappel, je m'appelle Brice Van Nuffel, je tiens le blog worldwildbrice.net et je vis en Asie depuis 2013. Donc si vous êtes un fan d'Asie ou si vous voulez préparer un voyage en Asie, vous êtes arrivé au bon endroit. Ce que je vous conseille, c'est de monter dans le train, de bien vous installer et de profiter du podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une région du nord du Vietnam que j'aime beaucoup, mais qui est incroyablement compliquée, comme un peu toutes les régions du nord du Vietnam, Ça y est, j'ai déjà vendu la mèche. On va parler du nord du Vietnam et plus particulièrement des montagnes du nord du Vietnam. Et oui, le but, c'est pas de vous parler d'Along et de Hanoï. Le but, c'est plutôt de parler de Sapa, de Mekong Chai, de Hazan, de Cao Bang, de Iti et tous ces noms qui sont un peu barbares et vous vous demandez, mais où est-ce qu'il faut vraiment que j'aille? C'est quoi le plus beau? Dans ce podcast, je vais en fait me focaliser sur plusieurs points. Déjà, sachez que je ne vais pas pouvoir parler de tout. Hein. Le nord du Vietnam, c'est une zone qui est immense. Je ne suis pas allé partout, loin de là. Par exemple, je ne suis jamais allé à Dien Bien Phu. Mais pour faire très simple, commenter, donnez-moi des conseils. Une introduction de la région. Je vais parler de certaines destinations. Certaines, je vais vraiment faire un petit focus dessus. D'autres, on va en parler plus succinctement. Je vais vous parler des marchés des minorités. Je vais vous donner quelques idées pour les itinéraires et je vais vous donner quelques pistes pour aller plus loin. Ça va être un podcast qui va être assez long, assez dense, comme souvent. Donc n'hésitez pas à prendre un petit stylo ou à marquer, lorsque vous écoutez le podcast, un nom ou ce genre de choses. N'oubliez pas que si vous tapez ces mots directement sur le blog, vous avez une petite loupe pour chercher sur le blog. Vous trouverez évidemment beaucoup plus d'informations sur ces régions. J'espère que tout a été clair. Le but dans ce podcast, c'est de vous donner les clés pour vous donner une vision d'ensemble, encore une fois, du nord du Vietnam. Le but, c'est pas de vous dire « Alors, il faut absolument dormir dans l'hôtel A à Sapa et passer 2 jours. » Non, loin de moi cette idée. Je vais surtout mettre en avant quelques destinations assez cool. Vous parler de ce que sont vraiment les marchés des minorités. Bref, en gros, vous aider à vous dire déjà « Est-ce qu'il faut que j'aille dans le nord du Vietnam ou pas ? Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Pour combien de temps ? Et dans quoi je me lance ?» Avant de me lancer dans une énumération sans fin des destinations du nord du Vietnam, je pense qu'il est important de remettre l'église au milieu du village. Premier point important, pour moi, le nord du Vietnam, c'est tout ce qui se trouve en gros à la frontière avec la Chine et en partie avec le Laos. Donc sur certains blogs, sur certains sites, on va parler des montagnes du nord du Vietnam, les zones de minorités ethniques, les rizières en terrasse, etc. Dans ce podcast-là, on ne va pas parler de Hanoï, de la baie d'Along, de Nam Dinh, de Ninh Binh, etc. On va faire un épisode de podcast spécial sur ce que j'appelle en gros la zone autour de Hanoï, qui est plutôt en gros le delta du fleuve Rouge. Dans cet épisode, on va parler en gros de tout ce qui se trouve à plus de 4 heures de Hanoï et souvent la frontière avec la Chine, donc des provinces comme Cao Bang, comme Hazang, comme Lao Cai, avec Sapa ou Bakha par exemple. C'est un point essentiel aussi à comprendre. Ces régions-là, généralement, vous avez en gros 2 cartes postales, entre guillemets. La première, ça va être les vallées, donc toutes les zones qui sont des vallées, tout bêtement, plates. Ça, ce sont des zones qui sont souvent peuplées par des minorités thaï. Généralement, elles ne portent pas de costume, elles ont de magnifiques maisons sur pilotis, et généralement, encore une fois, il y a 2 récoltes de riz par an. À l'opposé, lorsque vous grimpez dans les montagnes dans ces régions, vous allez avoir beaucoup de Hmong. Gardez ça à l'esprit, si vous êtes dans des vallées, vous ne verrez pas de Hmong. Si vous êtes dans les montagnes, vous ne verrez pas de Thaï. Il y a généralement peu de population dans ces zones-là. Ce sont des zones principalement avec beaucoup de nature, beaucoup de forêts. Et si vous voyez des rizières ou des rizières en terrasse, c'est souvent qu'autour, il y a des villages. Et oui, pour qu'il y ait des rizières, il faut aussi que les gens viennent bosser. Et donc, généralement, les gens font des rizières autour des villages. C'est un point assez essentiel à comprendre, puisque dans certaines zones du nord du Vietnam, on ne croise pas grand monde. Quand vous traversez la province de Bac Han, qui est la province avec notamment Ba Bé, le lac Ba Bé, Il n'y a personne. Alors, je viens d'Aix-en-Provence, on dirait vraiment il y a des gains. Mais alors, c'est vraiment le mot. Hein. Si vous crevez, bonne chance, il faut se taper quelques kilomètres pour trouver un mec qui va pouvoir vous réparer la moto. Dans tous les cas, gardez aussi à l'esprit que ces régions du nord du Vietnam sont des régions très enclavées et très pauvres. Évidemment, vous avez toujours l'exemple inverse. Par exemple, la ville de Lao Cai, qui est la ville à la frontière avec la Chine ou les environs de Lang Son. Pareil, vous avez quelques villes assez riches puisqu'elles dépendent du commerce avec la Chine. Ce sont des zones où les frontières étaient faciles à traverser historiquement. À l'opposé, lorsque vous allez dans des zones avec, avec beaucoup de minorités ethniques, notamment dans les montagnes, ce sont des zones où il n'y a rien. D'accord, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas très peu de commerce, il n'y a pas de service, il n'y a pas ce genre de choses. Donc ce sont des zones qui dépendent d'une agriculture, ma foi, assez extensive. Hein. Il n'y a pas de machine, tout est fait à la main. Et c'est très, très pauvre. C'est très, très pauvre et du coup, il y a aussi assez peu d'infrastructures. Par infrastructure, je ne vais pas vous dire que les routes sont pourries, parce que les routes sont quand même généralement dans un très bon état. Le gouvernement fait assez gaffe à ça, donc les routes sont généralement très bonnes. En revanche, tout prend 50 000 ans, puisqu'évidemment, pour aller du point A au point B, lorsque c'est des montagnes, il faut souvent faire tout le tour d'une vallée, et ce n'est pas directement. J'ai parlé des infrastructures, je voulais surtout dire du point de vue des hôtels et du point de vue des restaurants. Pourquoi je dis ça? En fait, si ce sont des zones très pauvres, globalement, il y a quelques touristes qui viennent, mais s'il y a peu de touristes, il y a peu d'intérêt d'avoir un hôtel, puisqu'en fait, il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas de businessman qui vient, il n'y a pas de gens qui viennent en vacances, ce genre de choses. Donc, vous avez des hôtels qui servent pour passer une nuit, souvent ce qu'on appelle des nyani, N-H-A, plus loin, N-G-H-I. Si vous tapez ça sur Google Maps, vous trouvez plein de résultats. Mais pas d'hôtel de charme et ce genre de choses. C'est la même chose pour les restaurants. Imaginez pas manger italien, manger japonais, ce genre de choses dans certaines villes du nord du Vietnam. Généralement, on mange dans des restaurants qui s'appellent Com Pho, donc C-O-M plus loin, P-H-O, ce qui veut dire en gros, on fait du riz et on te cuisine un peu ce que tu veux, du porc ou ce genre de choses. Ça, c'est vraiment une réalité qui est assez difficile à imaginer pour certains, mais lorsque vous partez dans des zones reculées du nord du Vietnam, il n'y a que dalle. Donc, imaginez pas trouver parfois même des sneakers ou ce genre de choses, des barres chocolatées par exemple. Vous en trouvez dans les grandes villes évidemment, mais parfois vous allez passer 2-3 jours où il n'y a juste rien à acheter. Vous avez les biscuits locaux et ce genre de choses, hein. c'est pas la famine, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est très, 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 très peu développé. J'ai d'ailleurs quelquefois des commentaires dans ce sens de voyageurs au Vietnam qui, en gros, sont partis dans un bourbier, il n'y a pas d'autre mot. Ils voulaient voyager tranquillement, ils voulaient découvrir le nord du Vietnam authentique, mais ils n'avaient pas compris qu'avec l'authenticité vient aussi ce truc de on dort dans des homestays pourris, on dort dans des hôtels, parfois c'est un peu crade, quoi. Faut pas regarder dans les coins parce que c'est un peu sale. On mange toujours du riz avec du porc quasiment tout le temps. Ça, c'est la réalité de certains coins du nord du Vietnam. Donc faites attention à ça. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Franchement, moi je suis prêt, ça ne me dérange pas du tout. Mais je sais qu'il y a des gens pour lesquels ça ne fonctionne pas. Donc faites attention à ça encore une fois. Le nord du Vietnam est passé 10 jours, comme vous voyez sur certains blogs ou certaines vidéos YouTube. Ah, c'était incroyable et compagnie. C'est pas pour tout le monde. Autre point essentiel à comprendre pour le nord du Vietnam, lorsqu'on parle de rizières dans des vallées, généralement, vous avez deux récoltes de riz par an. Lorsqu'on parle de rizières en terrasse dans le nord du Vietnam, donc notamment Sapa, Mukong Chai, Hang Su Phi, qui sont les trois zones principales dans le nord du Vietnam, vous n'avez du riz que de juin à septembre. Alors, vous avez de légères différences en fonction de la zone. Mais dans l'idée, si vous venez en octobre, enfin fin octobre, novembre, si vous venez en mars, si vous venez à ces périodes-là, vous n'aurez pas de riz dans les rizières en terrasse. J'ai été clair? Attention, le riz que de juin à septembre. C'est aussi un point important, c'est des expériences de dingue. Vous l'avez compris, hein, c'est aussi marrant parfois de dormir dans des homestays pourris. C'est aussi marrant de trouver un restaurant un peu paumé où personne ne parle anglais et puis vous pointer dans les assiettes des autres en disant « Ah, je veux ça !» Et ça, et coca, c'est bon. Ça fait aussi partie du voyage. C'est, entre guillemets, un assez inhérent d'un voyage dans le nord du Vietnam, dans les zones reculées, je pense notamment à Hang Su Phi. N'imaginez pas non plus que tout est noir ou tout est blanc. Vous avez des zones qui sont entre les deux, je pense notamment à la boucle de Hazang, où vous trouvez quelques hôtels assez sympas, où vous allez trouver quelques cafés assez sympas. Mais si je prends l'exemple de Hang Su Phi, qui est, je pense que c'est la zone quasiment la plus pauvre où je suis allé dans le nord du Vietnam, qui est une zone de dingue, hein, de rizières en terrasse. Mais typiquement, le dimanche matin, je n'ai pas trouvé un café dans la ville. Pourtant, c'est une ville assez peuplée, hein, mais pas de café. Pour manger, c'est du riz et du riz frit, et c'est une des rares fois où je suis tombé malade au Vietnam. Ça ne me dérange pas, hein, la région est dingue. Les paysages sont incroyables. Mais c'est un truc où il faut faire attention. Derrière les belles photos qu'on voit sur Internet ou derrière les belles vidéos, il y a aussi tous ces aléas, entre guillemets, on va dire, de peut-être avoir une chambre d'hôtel sale, un peu crade, un peu naze, quoi. Les restaurants et ce genre de choses. Donc gardez ça à l'esprit. J'ai oublié un point. Mais oui, je me suis fait un long fichier Excel avec 50 000 points abordés. J'ai pas parlé du climat. Comment imaginez-vous le climat dans les montagnes du nord du Vietnam ? Et ben en fait, c'est un climat entre guillemets qui va être assez similaire à ce qu'on va voir, j'ai pas envie de dire en France, mais en Chine ou en Asie, dans le nord de l'Asie, pardon. L'hiver dans le nord du Vietnam est vraiment froid. Il n'y a pas d'autre mot. Je vous recommande de ne surtout pas aller dans le nord du Vietnam entre décembre et février. Décembre, janvier, février, oubliez le nord du Vietnam, les montagnes du nord du Vietnam plus précisément. Allez dans le delta du Mekong, c'est magnifique. Faites aussi attention à ça. Juin à septembre, du riz. Décembre à février, horrible. Alors je dis horrible, il y a toujours un mec qui a fait la boucle d'Azang en janvier, qui a dit « Ah, j'ai eu un super temps et compagnie. » Mais dans l'idée, à cette période-là, il fait souvent froid. Il y a souvent de la brume. Et bah, si vous faites de la randonnée qu'il a plus de deux jours avant et que bah, c'est tellement humide et il n'y a pas de soleil, du coup, les chemins ne sèchent pas. Est-ce que ça vous amuse de vous casser la gueule quand vous avez deux semaines de voyage au Vietnam et de vous casser la gueule dans la boue ? Pas vraiment. Évidemment, là, je suis très manichéen. Il y a forcément des gens qui ont apprécié leur voyage dans le nord du Vietnam en janvier. Mais faites attention à ça. Ce n'est pas pour tout le monde. Et avec le changement climatique, c'est vrai qu'il fait de plus en plus chaud, entre guillemets. Mais par exemple, là, aujourd'hui, bah, il va faire 9 degrés cette nuit à Hanoï. Donc, je ne sais pas quelle température il va faire à... Donc, bah, attends, on va rigoler. Je vais taper en même temps que j'enregistre ce podcast. Weather Dong Van. Donc, Dong Van, qui est une zone sur la boucle de Hazang. Et évidemment, ça ne me donne pas le résultat. Donc, on va taper Weather Sapa. C'est un bon exemple. Donc, Sapa, aujourd'hui, il fait, entre guillemets, soleil. Et il fait 6 degrés au maximum, moins 2 en minimum. Est-ce que vous avez envie de marcher toute la journée par 6 degrés ? Dans deux, j'enregistre ce podcast le 24 janvier, pour vous donner une idée. Donc là, entre guillemets, sur les prochains jours, on ne dépasse pas les 15 degrés de maximum. Et en gros, tous les soirs, il fait 0 degrés. Donc moins 2, 2, 4, 1, moins 1, 0, 1. Ça, c'est la réalité du nord du Vietnam. Pour certains, ils imaginent un voyage au Vietnam. Les tropiques et ce genre de choses, les montagnes du nord du Vietnam, il peut vraiment faire froid. Donc faites attention à ça. Je vous donne un mois où il faut absolument aller dans le nord du Vietnam et dans les montagnes, septembre. Septembre, c'est le meilleur mois. C'est la saison des récoltes dans pas mal d'endroits. Il a arrêté de pleuvoir de façon importante. Et bien évidemment, il y a beaucoup de gens dans les rizières. Il commence à y avoir pas mal de soleil. Et il y a de l'activité dans les rizières. Et c'est un mois qui est assez unique. Si vous pouvez aller dans le nord du Vietnam en septembre, on va notamment parler de Hazang, de Cao Bang et d'Anc Soufi dans quelques minutes. C'est vraiment une expérience de dingue. Je vous ai fait une brève introduction sur les montagnes du nord du Vietnam. Alors, je dis brève, c'était assez long, hein, mais vu que je suis un passionné, je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Encore, je ne vous ai pas parlé. Est-ce qu'il pleut en juillet, ce genre de truc ? Dans cette seconde partie, on va se focaliser sur des destinations. Alors, je vais faire trois catégories vraiment assez importantes. La première, on va parler des destinations, je pense, principales. Et donc, je vais vous parler de ces destinations en quelques phrases. Je vais vous parler de zones très succinctement. Et je vais aussi vous donner trois bonnes idées, trois idées que j'aime bien en fonction de votre profil de voyageur. Attention, encore une fois, hein, je pourrais vous parler pendant des heures de Sapa et de pourquoi j'aime pas Sapa ou pourquoi j'adore Hazang. C'est pas le but de ce podcast. Le but, c'est de vous donner les clés pour comprendre la région. Donc, aussi gardez à l'esprit, je suis pas allé partout. Vous allez peut-être voir d'autres coins où moi j'ai jamais eu la chance d'aller, hein, notamment la province de Son La que je connais très mal, même la province de Bac Ran avec Ba Bé, c'est pas une zone que je connais particulièrement. Lang Son, pareil, il y a d'autres zones. Donc là, je vous parle surtout de moi, ce que je connais. Première destination que je souhaite aborder dans ce podcast. Évidemment, une destination que je ne recommande que très peu. Vous avez deviné ou pas ? Eh oui, c'est Sapa ! Sapa, capitale du surtourisme au Vietnam, un centre-ville horrible. Il y a quelques années, en mai, il n'y avait pas assez d'eau. Ils ont dû repousser la plantation du riz pour qu'il y ait encore des douches pour les touristes dans la ville. C'est une histoire vraie. Le centre-ville est horrible, il n'y a pas d'autre mot. C'est une ville qui a poussé comme un champignon, aucun urbanisme, c'est naze. D'accord ? C'est naze, 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 naze. En revanche, la région tout autour est sublime. Beaucoup de rizières en terrasse, des minorités très différentes, une culture encore vraiment préservée pour les minorités, qui portent encore pas mal leurs costumes. C'est une destination, je pense, vraiment sympa pour ceux qui sont en famille, puisque vous aurez quelques très beaux hôtels dans la campagne, pas forcément à chaque fois pour 250 euros. Hein. Il y a le Topaz et College qui est très connu et qui est très cher, mais vous avez d'autres hôtels avec piscine et petits bungalows directement dans la rizière. Et ça, bah, pour les familles, c'est vrai que c'est assez génial. Et aussi pour les personnes qui ont, j'ai envie de dire, peu de mobilité. Peut-être si vous êtes un peu plus âgé, que vous avez mal au genou, mal quelque part, et que vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans des randonnées de dingue ou des longs trajets en bus, ce genre de choses, bah, ça fonctionne aussi assez bien. Bon, j'avais prévu de couper maintenant, mais en fait, je vais parler d'un autre truc parce que je trouve ça assez drôle. Vous ne trouverez pas deux mondes autant opposés que Sapa avec les touristes étrangers et les touristes vietnamiens. En fait, les Vietnamiens viennent à Sapa pour le climat déjà, qui est vachement plus froid, et surtout, ils viennent pour aller jusqu'au Phan Xi Pan, qui est la plus haute montagne du Vietnam. On peut y accéder par un énorme téléphérique, qui coûte une blinde d'ailleurs, mais bah, évidemment, il a fallu le construire et il faut grimper une montagne. Je crois que c'est le plus haut téléphérique du monde ou avec le plus gros dénivelé. Bref, c'est toujours un truc le plus long au-dessus de la mer, le plus grand, le plus beau, le plus machin. Et dans l'idée, les Vietnamiens viennent pour ça. Ils viennent aussi parfois pour picoler un peu, faire un peu la fête et pour aussi parfois manger du saumon. Et oui, puisque dans la région, on peut faire du saumon d'élevage puisqu'il fait assez froid. Les Vietnamiens venant en fait assez peu pour les rizières en terrasse, alors ils vont peut-être aller y passer quelques heures histoire de faire des photos, notamment dans des habits Hmong. Le climat est aussi différent à Sapa, donc il y a pas mal de zones avec des fleurs, et les Vietnamiennes sont des dingues de fleurs pour faire des photos. Donc si vous allez dans le centre du Sapa, vous verrez des Vietnamiens et des Vietnamiennes surtout avec des robes magnifiques pour faire des photos, juste à côté d'enfants Hmong ou de mamies Hmong en train de mendier, et juste à côté de grands restaurants pour aller boire des coups. Quand je vous dis que c'est une autre planète Sapa, c'est vraiment une autre planète. Faites donc très attention à ça. À l'opposé, généralement, les voyageurs étrangers, eux, ils s'en foutent d'aller voir une chute d'eau, d'aller voir des fleurs. Bon, parfois, ils vont voir le Phan Xi Pan, mais pas tout le temps. Et eux, ce qu'ils veulent voir, c'est des rizières en terrasse, des villages des minorités, ce genre de choses. Donc évidemment, pour que ces deux mondes-là cohabitent, c'est très difficile dans une même ville. Donc vraiment, j'insiste, ne restez pas dans Sapa et allez à l'extérieur de Sapa, vous. Pas vous m'en direz des nouvelles, non, je pense pas d'ailleurs, mais ça vous sauvera peut-être une ou deux journées un peu gâchées dans votre voyage. Faut que je fasse une pause là ou pas ? Non, pas de pause ! Ok, on enchaîne ! Deuxième destination, ouais, j'étais vachement trop long pour cette première partie sur Sapa. Deuxième destination, Baka. Baka, c'est une zone non loin de Sapa. En fait, lorsque vous allez jusqu'à Sapa, généralement vous passez par Lao Cai, qui est la grande ville du nord. Si vous allez à l'ouest, enfin vous prenez à gauche en gros, vous allez à Sapa. Si vous prenez à droite, vous allez à Baka. Baka, c'est aussi une petite ville, mais c'est pas touristique. Ça devient un peu touristique dimanche matin quand il y a des marchés, puisqu'en fait la région de Baka est très connue pour ses marchés des minorités. Le dimanche à Baka, le samedi à Kanko, qui en gros a une demi-heure de route de Baka, le mardi à Kokli. Alors il y en a quelques autres, le jeudi, le vendredi, le mercredi et compagnie, mais généralement ils sont beaucoup plus petits et un peu moins intéressants. Baka, ça fonctionne très très bien comme remplacement de Sapa. Si je vous ai fait un peu peur avec ma description de Sapa, qui je pense quand même assez réelle, Baka en fait fonctionne bien puisque c'est un peu touristique pour qu'il y ait quelques homestays, ce genre de choses, et aussi que vous puissiez trouver par exemple de la randonnée facilement, et c'est pas assez touristique pour que ça devienne un enfer comme peut l'être Sapa. À Baka, vous aurez quelques randonnées sympas. Les paysages sont vraiment très beaux. Un poil en dessous quand même de Sapa. Un Sapa pour les rizières en terrasse, c'est vrai que c'est très très beau. Mais ça fonctionne quand même. Et si vous n'avez pas d'éléments de comparaison, vous serez quand même vraiment waouh par les rizières de Baka. Donc n'hésitez pas. Si vous avez peur que Sapa soit trop touristique, foncez à Baka, vous m'en direz des nouvelles. Troisième destination dont je veux parler, la boucle de Hazang, la plus belle région du nord du Vietnam. La boucle de Hazang, c'est des paysages incroyable, de chez incroyable. Allez, j'en remets une couche. De chez incroyable. Pour faire très simple, la boucle de Hazang se fait souvent en 2, 3, 4, 5 jours de moto, ça dépend. Vous partez de la ville de Hazang, vous faites plusieurs arrêts, souvent à Dong Van, à Mieu Vac, à Zusa, à Yen Minh, ça dépend. Et vous avez des paysages de dingue. Alors attention, ce sont des paysages qui dépendent très peu de rizières en terrasse. Vous avez quelques rizières en terrasse autour de Yen Minh, mais dans l'idée, c'est souvent plutôt des paysages de montagne. Mais les paysages sont dingues. Attention aussi, la boucle de Hazang se fait principalement en moto. Alors, soit vous conduisez votre moto si vous êtes déjà très expérimenté, que vous avez déjà conduit en Asie, que vous n'avez pas peur de conduire par exemple sous la pluie, soit n'hésitez pas à le faire à l'arrière de Easy Rider. Les Easy Rider, en gros, c'est un pilote local qui conduit pour vous sur sa moto et vous, vous êtes à l'arrière. Bien plus safe parce que eux, évidemment, ils connaissent bien la route, ils sont habitués à conduire au Vietnam. La boucle de Hazang est une zone vraiment, vraiment sublime. D'ailleurs, j'ai parlé de Hazang, de la province d'Hazang et compagnie. Évidemment, toujours très facile pour décrire dans un podcast. dans les provinces du nord du Vietnam des montagnes, le nom de la ville principale et aussi le nom de la province. La grande ville du nord du Vietnam et de la province de Lao Cai, c'est Lao Cai, très pratique. La grande ville de la province de Ha Giang, c'est Ha Giang. La grande ville de la province de Cao Bang, c'est Cao Bang. Et alors souvent, lorsqu'on parle de la ville, on va plutôt dire TP Ha Giang, TP Lao Cai, TP Cao Bang, qui en fait veut dire Tan Phe, qui est en gros le nom de la ville principale. La boucle de Ha Giang est une zone de dingue vraiment, mais attention, c'est pas pour tout le monde, notamment je pense pour les familles, ça fonctionne assez peu, puisqu'il y a beaucoup de routes. Quatrième destination dont je veux parler, c'est Hang Sufi. Hang Sufi, plutôt avec le H prononcé, c'est ce qui se rapproche le plus de Sapa, je pense, dans l'imaginaire des Français. Alors, ça se rapproche le plus de Sapa parce que c'est très, très peu développé. Des paysages incroyables. Pour les résidents en terrasse, c'est à tomber par terre, vraiment. C'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de résidents en terrasse. C'est complètement dingue. Par contre, attention, c'est pas une région qui est très développée, loin de là. C'est, je pense, une des régions les plus pauvres dans laquelle j'ai pu aller dans le nord du Vietnam. Tout est difficile à faire par soi-même. Il y a très peu de transports en commun, par exemple. Si vous êtes en mode backpack, que vous prenez des bus, vous n'irez jamais à Hang Sufi, oubliez. Je vous prends un exemple vraiment tout bête. Dans la ville principale, qui s'appelle Vinh Quang, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas de café. Alors, quand j'y étais un dimanche matin pour le marché, en fait, il y a un café que j'ai pu voir et il était fermé. Donc, pour être dans une ville qui est la ville principale d'un district et qui n'est même pas un café, ça veut dire que c'est vraiment, vraiment, vraiment la galère. Hang Sufi, il n'y a aussi pas grand monde, honnêtement, vous passez des kilomètres sans voir des gens. Mais, c'est possible de découvrir Hang Sufi, même sans faire de moto. Pour cela, il faudra sûrement aller dans le sud du district. Donc Hang Sufi, c'est toujours dans la province de Ha Giang, mais c'est à l'ouest de la boucle, c'est un district. Et dans le sud du district, vous avez notamment des hôtels assez connus, le Hang Sufi Lodge, le Panhu Village et d'autres hôtels qui se trouvent tous un peu autour de la même zone et qui en fait un peu plus facile d'accès en voiture. Oui, en voiture, j'ai failli dire en bus, mais non, en voiture ou en moto, ça fonctionne aussi. Qui peuvent aussi vous organiser des randonnées, qui sont des hôtels tout à fait corrects. Alors, ce n'est pas du luxe, vous payez un peu cher pour ce que c'est, mais ça se fait et ça permet de découvrir la région. Dernière zone dont je vais parler rapidement dans cette partie du podcast, je vais vous parler de Cao Bang. Cao Bang, c'est en fait à l'est, je vais dire à l'ouest, la grosse erreur, à l'est de la province de Ha Giang. Ha Giang, c'est la province la plus au nord. C'est là où vous avez notamment Lung Co, qui est le fameux drapeau, qui est le point le plus au nord du Vietnam. Cao Bang, c'est légèrement à l'est de cette région. C'est une zone qui est assez méconnue et qui est en fait souvent vue uniquement par le prisme de Ban Zoc. Et Ban Zoc, c'est les immenses chutes d'eau dont vous voyez souvent les photos d'ailleurs sur les brochures de l'office de tourisme. Et en fait, Cao Bang, c'est bien plus que ça. Cao Bang, c'est une immense province. Vous avez Ban Zoc, évidemment, mais vous avez toute la région de Bao Lac qui est sublime. Vous avez Pak Bo, qui est l'endroit où Ho Chi Minh restait lorsqu'il est revenu au Vietnam. Et vous avez la route entre Bao Lac et Pak Bo qui a tombé par terre. Vous avez d'autres régions, notamment autour de Ngoc Con, qu'on voit souvent en photo, qui sont assez, assez ouf. Donc faites attention à ça. Cao Bang, c'est bien plus que Ban Zoc et c'est une zone assez sublime qui se combine très, 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 très bien avec Ha Giang, puisqu'elle est différente de Ha Giang, juste à côté de Ha Giang. Et si vous louez votre moto par QT Motorbike à Ha Giang, vous pouvez la laisser à Cao Bang. Donc, je ne gagne aucun argent avec ça, mais c'est vraiment super important, je pense, pour certains, puisqu'on va reparler de cette combinaison entre Ha Giang et Cao Bang dans les itinéraires recommandés. Ouais, je fais une petite pause, c'est bientôt fini cette partie. Un mot sur le reste, donc je vais vous parler de quelques destinations, mais je vais essayer de faire beaucoup plus court. Mukang Chai, superbe zone de rizière en terrasse, notamment avec Mukang Chai et Nialo, et Thule, pardon. Très très belle région, moi j'y suis allé, honnêtement on avait une tempête, donc c'était forcément moins le kiff. Attention, pas de marché des minorités, et se fait souvent, c'est pas vraiment la destination principale dans le nord du Vietnam, ça se fait souvent sur une boucle, notamment en faisant Hanoi, Nialo, Nialo, Thule, Thule, Mukang Chai, Mukang Chai, le sud de Lai Châu, notamment aux alentours de Tu Huyen, je me souviens plus, et ensuite d'aller à Sapa et de revenir par Hanoi. Ba Be, c'est sur la route de Cao Bang, souvent, c'est l'arrêt sur la route de Cao Bang. Ba Be, c'est un lac que j'ai pas trop aimé, moi, j'ai pas trouvé ça très beau. En revanche, c'est une destination très calme. Donc, si vous venez de passer beaucoup de temps dans le nord du Vietnam, que vous cherchez un endroit cool, tranquille, chill, on fait un petit tour en bateau, mais on passe aussi l'après-midi au bord de notre homestay, au bord du lac, à lire un livre, Ba Be, ça fonctionne. Sinh Man, une région qui est à l'ouest de la province de Ha Giang. Donc Sinh Man, c'est le district le plus à l'ouest de la province de Ha Giang. C'est quasiment à la frontière avec Lao Cai, d'ailleurs avec Bac Ha. Très très belle zone, très très peu connue. Un marché de dingue, Coc Pai, dont on va reparler un peu plus tard dans le podcast, et une zone au sud de Sinman qui est un CBT, donc un Community Based Tourism, qui est en gros un village où ils ont construit pas mal de homestays et on peut facilement accéder. Si vous cherchez sur le blog, vous trouverez mon séjour au Two Homestay. Loin d'être parfait, mais une région vraiment sublime. Dernier point que je vais mentionner dans ces brèves introductions sur certaines régions du Vietnam, Iti. Iti est très connu, une boucle au nord de Sapa qui passe à quasiment 2000 mètres d'altitude, donc très 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 haute, très prisée des Vietnamiens, notamment pour voir les mers de nuages, qui sont un truc que les Vietnamiens adorent. Iti aussi très connu pour aller voir des minorités Hani, qui sont des minorités qui ont des maisons sublimes, des maisons en terre cuite, très très belles. Dans la réalité, vous avez aussi des Hani à d'autres endroits du Vietnam, hein, notamment dans la province de Lai Châu. Iti, attention, très belle boucle en moto. En revanche, lorsque vous êtes vraiment à la frontière avec la Chine ou avec le Laos, vous êtes dans des zones où vous êtes notamment pas trop autorisé à dormir. Donc pour dormir à Iti, il faut d'abord faire une demande de permis avant d'aller à Iti. Alors moi, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années, ce permis n'était pas encore en place, on pouvait passer outre. Faites attention à ça, si vous écoutez ce podcast en, je sais pas, 2024, 2025, les règles auront peut-être changé, peut-être qu'il n'y en aura plus besoin, peut-être qu'il y aura besoin d'un autre permis, cette fois à Hanoï. Faites bien attention à ça. Mais Iti, c'est une très belle région. Si vous avez peur du problème de permis pour Iti, dormez à Mong Hum, qui est aussi un marché de dingue le dimanche, enfin marché de dingue, non, un très beau marché, beaucoup de minorités très différentes. Et là, vous n'êtes pas sur la zone frontalière, vous êtes en gros, je pourrais peut-être une heure de Iti, et vous pouvez dormir sans problème, vous avez aussi quelques nyanis. Je ne mets pas la cloche parce qu'il faut que je continue. On a bientôt terminé cette partie, on va bientôt parler des marchés, les gars. Je ressouffle deux secondes. Ok, trois idées que j'aime beaucoup. Donc là, si vous n'avez pas pris votre stylo encore, c'est le moment. La première idée est la boucle de Sinh Ho. Pourquoi je vous parle de la boucle de Sinh Ho, S-I-N, plus loin H-O? Parce que si vous êtes déjà à Sapa, que vous avez déjà booké votre hôtel, votre train et compagnie, et que vous dites « Ah bah mince, en fait, ça ne va pas être si authentique que ça » et que vous avez déjà fait un peu de moto dans votre vie, vous pourriez pourquoi pas vous faire la boucle de Sinh Ho. Vous partez de Sapa, vous dormez à Lai Châu, vous dormez ensuite une nuit à Sinh Ho, notamment pour voir le marché qui est le dimanche, qui est un très beau marché. Très facile depuis Sapa, aucun touriste. En revanche, attention, le col pour passer entre Sapa et Lai Châu est vraiment dangereux. C'est ghetto, il n'y a pas d'autre mot, surtout s'il a plu. C'est un des rares cols où je me suis dit, putain, là, il faut vraiment faire gaffe. Hyper dangereux aussi, il a plu, ça glissait. Je vous dis hyper dangereux, en fait, ce n'est pas la route qui est en mauvais état, c'est simplement qu'il y a beaucoup de trafic. Des camions qui passent pour aller à Sapa, des minivans de partout pour les touristes. Bref, faites gaffe si vous faites cette boucle en passant. Faites gaffe tout le temps. Hein. Si vous êtes en moto dans le nord du Vietnam, faites attention à tout. Il peut toujours y avoir un chien qui traverse devant vous, un enfant. Le virage qui est censé être tranquille, vous en avez déjà pris mille. Bah, cette fois, vous allez glisser parce qu'il y a une plaque, je ne sais pas quoi. Faites gaffe tout le temps. Mais faites encore plus attention à ce col. Il est terrible. Deuxième très bonne la boucle de Sinh Ho, donc souvent 2 à 3 jours de moto pour sortir de Sapa. Cinnamon Eco Lodge, qui est un hôtel vraiment, vraiment, vraiment super, en gros, au sud de Baka. C'est pour ceux qui cherchent la perle rare, qui cherchent un hôtel, en gros, de charme, sans être dans du haut de gamme, qui cherchent à avoir un vrai contact avec les locaux, une sorte de homestay, mais quand même avoir sa chambre, bah, peut-être quand même avec la clim, hein, parce que c'est sympa, et puis une salle de bain sympa. Cinnamon Eco Lodge, c'est une petite pépite. Vous aurez l'impression d'être un peu au bout du monde, parce qu'il n'y a aucun tourisme dans la région. Pourtant, vous avez des super randonnées à faire hein, dans des rizières, dans des plantations de thé. Vous avez aussi des minorités ethniques et vous avez aussi accès au marché notamment de Baka. Et le meilleur point, bah, c'est qu'à 4 heures de Hanoï, parce qu'en fait, vous prenez principalement l'autoroute de Lao Cai, vous roulez 3 heures sur cette autoroute et en fait, une heure avant Lao Cai, vous sortez de cette autoroute, vous conduisez une heure et vous arrivez au Cinnamon Eco Lodge. Donc en fait, vous avez tous les avantages des bonnes infrastructures pour aller à Lao Cai, sauf que le coin où vous êtes, bah, il n'y a aucun autre hôtel. Contactez Zoe si vous le pouvez, c'est la personne qui s'occupe de cet écologe. C'est en gros le mari des propriétaires. Non, comment je vais expliquer ça? En gros, il y a les propriétaires de la zone. Ils ont une fille et cette fille, elle est mariée avec Zoe. C'est moi, j'ai bien expliqué. Ils ont quelques bungalows sympas. Foncez-y, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années. J'ai hâte d'y retourner. Très bon endroit. Et Zoe parle parfaitement anglais. C'est un super guide d'ailleurs. Bonne chance, hein. Il fait des marathons et tout, c'est un guide de montagne, béton armé les gars. Vous le laissez monter, lui il vous monte le fancy pan dans quelques heures. Troisième idée que j'aime beaucoup et que je vais recommander ici sur ce podcast, qui est d'ailleurs l'opposé de Cinnamon Eco Lodge, Lam Binh. Lam Binh qui s'écrit L-A-M, plus loin B-I-N-H. Alors, en fait, je vous ai dit Cinnamon Eco Lodge est facile d'accès. Bah, alors là, Lam Binh c'est tout l'opposé. Lam Binh c'est dans l'extrême nord de la province de Tuyen Quang, Vous êtes juste au sud de Hazang. Pour y aller, c'est un bordel, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas de bus, il faut prendre sa moto, il faut conduire pendant quelques heures. Quand je suis revenu sur Hazang, il y avait un éboulement, bref, c'était un massacre. Mais c'est une zone de dingue. Les paysages sont maboule. C'est comme ça que j'écris sur Excel. J'ai écrit des paysages de maboule en caps lock. C'est une zone, en fait, ils ont construit un barrage et le barrage a inondé des vallées en amont. Et du coup, en fait, vous avez des paysages qui ressemblent par moments à la baie d'Along, alors toute proportion gardée, hein, sur quelques photos uniquement, mais vous avez cette impression un peu de pic karstique. C'est une zone où il n'y a pas de tourisme du tout. Dans le village autour, vous avez des sublimes rizières. J'ai fait des photos de dingue le matin avec la brume qui se levait sur les montagnes. Des minorités de taille, pas de tourisme, mais évidemment quelques homestays toujours, donc assez facile d'accès. Si vous faites de la moto entre Hang Sufi et Hazang notamment, et que vous n'avez pas le temps d'aller jusqu'à Kaobang, Lambin est une excellente idée. Ça se visite en moto, à pied pourquoi pas, et en bateau pour se balader sur le fleuve. Je vous ai sûrement perdu, vous avez sûrement rien compris, mais qui me parle de quoi là? On est à côté d'Hazang, la baie d'Along, des bateaux et compagnie. Regardez Lambin sur le blog, vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. J'ai plus besoin de respirer. Maintenant, on va passer sur la troisième partie et on va parler des marchés des minorités. Le podcast vient de dépasser les 30 minutes. Est-ce que vous êtes encore là? Oui, je suis navré, je sais. En fait, cette seconde partie était très longue parce qu'il fallait que j'aborde pas mal en fait, de points, pas mal de destinations. Et même en faisant court, même en essayant d'être très bref, il y a tellement de destinations et tellement de choses à dire que c'est difficile de faire ça en 5 minutes. Maintenant, la partie 3, on va parler des marchés des minorités. La partie 4, on va parler des itinéraires. Et la partie 5, pour vous donner quelques idées, ça va être dans l'idée quand même bien plus digeste et bien plus rapide. Alors, les marchés des minorités, c'est un point que je souhaitais aborder. Dans l'idée, vous aurez des marchés des minorités hein, quasiment que dans ces zones, d'ailleurs à la frontière avec la Chine, dans vraiment à l'extrême nord du Vietnam. Pour faire très très simple, tous les marchés des minorités se ressemblent quand même pas mal. Vous avez souvent une partie Kin, donc une partie avec les Vietnamiens, qui sont les vendeurs classiques. Ceux qui vendent de la nourriture, ceux qui vendent, je sais pas moi, des accessoires pour l'agriculture, un peu de l'outillage, ce genre de choses, ou des vêtements. Ça, c'est vraiment les classiques. Et vous avez une autre partie, souvent à l'écart et bien délimitée géographiquement, où vous avez des minorités qui vendent ce qu'ils produisent. Donc ça va être des herbes, ça va être des racines, ça va être peut-être des animaux, par exemple des petits porcs, des chiens, ce genre de choses. Ils ne sont pas tout le temps faits d'ailleurs pour manger. Mais il y a vraiment une vraie différence sur les marchés que vous allez notamment bien voir à Bakau, dans ce genre de marché où il y a beaucoup de kin et beaucoup de minorités ethniques qui vont se mélanger hein, pour acheter et pour vendre. Mais les vendeurs sont vraiment à deux endroits assez différents. Les marchés, c'est toujours une expérience de dingo qui va énormément apporter à votre voyage. Surtout si c'est la première fois que vous voyez un marché des minorités. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, lorsque vous voyagez, souvent vous voyez quelques minorités, quelques costumes, ou pas mal, ça dépend des zones, mais il y a toujours cet aspect de « ah, c'est un peu compliqué, ils sont en train de bosser, machin ». Dans les marchés, vous allez en voir des centaines, il n'y a pas d'autre mot, et c'est vraiment un moment « waouh ». La première fois que vous êtes dans un marché, vous ne savez pas où donner de la tête, vous ne savez pas où prendre des photos. Vous voyez parfois des costumes qui sont différents, des couleurs différentes, des chapeaux différents, des espèces de textures de costumes, des trucs vraiment bizarres. Et vous dites « putain, c'est incroyable, ça valait vraiment le coup de venir jusqu'ici ». Les marchés sont vraiment une expérience assez unique. C'est assez drôle d'ailleurs hein, parce que c'est une expérience unique, mais les marchés se ressemblent un peu tous. Mais c'est vrai que si vous voyez 5 marchés pendant votre voyage, ça fait un peu trop. Mais le premier marché, si vous n'avez jamais vu le marché des minorités, je pense notamment en Chine, au Laos, dans ce genre de pays, ça va être un truc de dingue. Les minorités qui vont être sur le marché vont en fait vachement dépendre de la région d'où vous êtes. Plus il y a de minorités dans la zone et plus vous aurez des costumes de toutes les couleurs. Dans l'idée, c'est un peu comme la zone de chalandise de votre carrefour du coin. Ça dépend qui y a autour, quoi. S'il y a une zone riche, il va aussi vendre des jacuzzi. S'il est dans une zone pauvre, il ne vend pas de jacuzzi. C'est exactement la même chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai donné ça. C'est beaucoup trop marrant. Je vais le garder au podcast. C'est nul, mais c'est trop marrant. Dans l'idée, en fait, c'est la même chose pour les marchés des minorités. Par exemple, lorsque vous êtes à Bakha, vous avez souvent principalement des Hmong. Donc, tout le monde a un peu le même type de costume. Par contre, si vous êtes à Mong Hum, qui est donc la ville que j'ai mentionnée pour la boucle de Hiti, vous avez en gros 4 types de minorités. Vous avez des Hani, qui sont ceux qui ont des costumes comment on dit, pourpre, je crois. Alors, en plus, je suis daltonien, alors je vous parle pas le bordel. Des Zao rouges, qui eux, bah, c'est sûr, ils ont des costumes rouges. Vous avez des Hmong, donc les Hmong, entre guillemets, normaux, qu'on voit un peu partout. Et vous avez aussi des Zai, je sais pas comment on dit. Après, vous avez 4 types de costumes, 4 types de couleurs, et c'est vraiment assez différent. Et ça, en fait, ça dépend tout bêtement de bah, les villages autour, de quelles minorités ils sont. Et donc, ça a un impact assez important pour les costumes et les minorités que vous allez voir. La région aussi a un fort impact, hein, évidemment, puisque parfois aussi les minorités sont présentes dans une région et pas dans une autre. Donc, si vous faites tous les marchés autour de Bakha, vous allez souvent un peu voir les mêmes costumes. Si vous faites un marché à Bakha, un marché à Hazang, un marché à Lai Chow et un marché à Dien Bien Phu ou à Son La, vous allez souvent voir des costumes assez différents, puisqu'évidemment, les minorités vont être différentes. Si je dois mentionner 3 marchés qui sont complètement dingo, maboule, incroyable, je ne sais pas comment dire. Numéro 1, Meovac. Meovac qui se trouve dans la province de Hazang. Le plus beau marché que vous pouvez voir, absolument incroyable, maboule, dingue, je ne sais plus quoi dire. Mais dans l'idée, celui-là, c'est un truc de ouf. C'est tous les dimanches matins. Le marché de Kok Pai en numéro 2, qui est dans le district de Sinman, donc à l'ouest de Hazang. Je pense que c'est un des plus beaux marchés avec Meovac pour faire de la photo. Assez différent, m'a fait une très très forte impression, très peu touristique. Aussi le dimanche matin, attention, pas d'animaux. En troisième, le marché de Baolak, qui est un marché, je pense, de dingue. Si vous appréciez les costumes, vous verrez parmi les plus beaux costumes que vous pouvez voir au marché de Baolak, qui se trouve dans l'ouest de la province de Kaobang. Donc pour faire très simple, entre la ville de Hazang et la ville de Kaobang, au milieu, vous avez Baolak, qui est une zone de montagne dans l'ouest de la province de Kaobang. J'imagine, si vous écoutez ça et que vous ne comprenez rien à la géographie du Vietnam, ça doit être l'horreur, mais regardez sur une carte, c'est assez facile à comprendre. Et le marché de Baolak, attention, c'est très technique, c'est tous les jours 5 et 10 du calendrier lunaire. Et là, vous dites, Brice, comment c'est le calendrier lunaire? Eh bien, pas de problème, vous allez sur l'article sur Baolak directement sur le blog et tout est expliqué. 3 autres marchés à mentionner, donc les 3 plus beaux pour moi, Meovac, Kok Pai, Asinman et Baolak, dans la province de Kaobang. En 4, 5, 6, si je dois donner quelques noms, le marché de Lung Phin, dans la province de Hazang. Attention, le marché de Lung Phin dépend d'un certain type d'animaux sur le calendrier lunaire, donc faites attention à ça. Un très, 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 très beau marché où j'ai pu prendre, je pense que c'est le plus beau portrait que j'ai fait de toute ma vie dans le nord du Vietnam. Le marché de Dong Van, qui lui est quand même bien plus connu, comme Meovac, qui se trouve en gros à 1 heure au nord de Meovac, dans la ville de Dong Van. Pareil, un choix très solide, beaucoup de minorités, très beau, très très gros marché, beaucoup beaucoup de monde. Même chose pour Bakha, Bakha qui est aussi un des plus touristiques, hein, il faut bien le dire, mais qui a un très très gros marché, énormément de buffles, énormément de monde. Donc pour une première fois, c'est vrai que c'est toujours très très impressionnant. Vous avez d'autres marchés que j'aime beaucoup, hein, je pense notamment à Mong Hum dont on a parlé, Iti qui peut fonctionner pour certains parce qu'elle est Hany, mais sinon c'est quand même un petit marché. Vous avez pas mal de marchés dans la région d'Azang qui sont aussi très beaux. Encore une fois, je ne les ai pas tous vus, mais vraiment, si je peux vous donner quelques noms, si vous allez à Meovac, à Kok Pai, Baolak ou à Lung Phin, Dong Van, Bakha, vous allez en prendre plein les yeux et ce sera une expérience de dingue. Oui, on n'en a pas parlé d'ailleurs, les calendriers se superposent en fonction du type de marché. Certains marchés sont par exemple tous les samedis ou tous les dimanches. Certains marchés sont tous les jours 4 et 8 du calendrier lunaire. Et certains marchés sont tous les jours du poulet et du rat sur le calendrier lunaire. Et oui, encore une fois, il faut préparer son voyage au Vietnam pour comprendre ce que sont ces calendriers, lesquels se superposent, comment ça fonctionne et comment bien mélanger ces marchés. Ça vous permet en fait de faire un itinéraire vraiment différent des autres. Mais encore une fois, il faut bosser et il faut bien comprendre. C'est fini pour cette partie sur les marchés. Il y a un grand guide d'ailleurs sur tous les marchés du nord du Vietnam sur le blog. Maintenant, on va parler de quelques itinéraires. On a parlé des destinations, on a parlé des marchés des minorités. Maintenant, on va parler de comment les mélanger. Le premier point essentiel, la météo. Est-ce que c'est le bon moment d'aller dans le nord du Vietnam ou est-ce que je suis en décembre, en janvier et en février et vaut mieux que j'aille autre part? Deuxième point essentiel, de vos envies et de votre impératif de temps dépendra votre itinéraire. Ne faites pas l'erreur de « je rêve d'aller à tel endroit, mais j'ai pas le temps et du coup, je vais faire un programme alambiqué, ça va pas fonctionner ». Pas du tout. Le nord du Vietnam, il faut du temps, de toute façon, pour en profiter. N'imaginez pas faire tout ce dont je parle sur ce podcast en un voyage. C'est impossible. Moi, ça fait 7 ans que je suis au Vietnam. Je suis allé dans plusieurs endroits, mais il y en a plein où je ne suis pas allé. Donc, oubliez totalement. Et la même chose, si vous passez 3 semaines que dans le nord à faire que des rizières en terrasse, ça va vous gonfler. C'est toujours la même chose. Donc, faites attention à ça. Mélangez-le. Bah, ok, j'ai 4 jours. Ok, je peux faire de la moto. Ok, c'est la bonne période pour Azang. Bah, je vais à Azang. Ok, j'ai que 2 jours. Il faut que je fasse un aller-retour. J'ai très peu de temps. J'ai déjà pris mes billets de train pour la Hokkaï. Ça passe à l'art touristique. Bah, allez à Bakha. Ok, j'ai 10 jours dans le nord du Vietnam parce que moi, j'ai vraiment envie d'en profiter. J'ai envie de faire les récoltes des rizières. Bah, du coup, faites Azang plus Cao Bang. Je pense que ça, c'est le plus beau voyage que vous pourrez faire au Vietnam. Je pense un des plus beaux voyages en Asie. Vous partez de Azang, vous faites toute la boucle de Azang. Vous pouvez passer par Hong Su Phi d'ailleurs si vous le souhaitez pour voir les rizières en terrasse. Et ensuite, vous allez sur Cao Bang, qui est une zone quand même assez différente. Vous verrez les chutes d'eau et ce genre de choses. C'est, je pense, le plus beau voyage que vous pourrez faire. C'est la même chose d'ailleurs pour les familles. Pour les familles, le nord du Vietnam, c'est pas évident. On a parlé de 50 000 choses différentes dans ce podcast. Si ma famille était amenée à revenir au Vietnam pour une troisième fois pour aller voir les rizières en terrasse, je pense qu'on irait très probablement à Sapa. Bizarre, non? Puisque je vous ai dit que Sapa, c'était nul. Oui, mais dans la réalité, Sapa, c'est aussi le plus simple d'accès, que ce soit par la route ou par le train. C'est là où on a les meilleurs hôtels. C'est là où on pourrait se faire quelques randonnées faciles, même pour mes parents, hein, qui commencent à déjà un peu plus âgés. Et pour moi, bah, peut-être facile le soir pour dormir, pour avoir la piscine pour les... Bah oui, j'ai aussi 2 neveux. Il faut une piscine l'après-midi pour... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut d'abord noter, ok, j'ai... ça c'est ma période, ça c'est le temps que j'ai, ça c'est mes impératifs, du coup je vais à tel endroit. Et n'oubliez pas, il n'y a aucune honte à ne pas aller dans le nord, l'extrême nord du Vietnam. Je vous prends un exemple, Mai Tho ou Phu Long dont on va parler bientôt, qui sont des zones plus proches de Hanoï, qui sont des zones où il n'y a pas de minorité, enfin il y a des minorités ethniques Thaï, où il y a parfois des très belles rizières, bah, c'est aussi de très bons endroits pour découvrir le nord du Vietnam, c'est aussi très beau. Gardez aussi à l'esprit, si vous êtes en famille, un Cinnamon Eco Lodge, je pense que c'est vraiment une petite pépite. Du point de vue des itinéraires, si vous n'avez que quelques jours, gardez aussi à l'esprit, ça on l'a, je pense que je n'ai pas assez insisté au cours de ce podcast, les transports prennent du temps, beaucoup de temps. Vous n'êtes pas venu au Vietnam pour vous faire que du bus, donc n'oubliez pas, si vous allez à un endroit, il faut un peu de temps pour en profiter. C'est d'ailleurs l'avantage principal de Sapa et de Bakha, c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui y vont, c'est qu'il y a du train, il y a des bus faciles, puisqu'il y a une autoroute pour aller jusqu'à la Hokkaï, entre guillemets, qui va quasiment jusqu'à Sapa et quasiment jusqu'à Bakha. Donc c'est aussi un élément essentiel, mais encore une fois, il n'y a pas de honte à ne pas aller dans le nord du Vietnam. Si vous voulez voir du riz, bah, vous en aurez tout autant dans le centre et vous en aurez bien plus dans le sud, par exemple. Alors oui, ce n'est pas du riz en terrasse, ce n'est pas des rizières en terrasse, mais il y a aussi beaucoup de riz. Donc n'hésitez pas. Si vous venez, par exemple, en décembre ou en janvier, vous dites « Mince, on a déjà pris nos vols pour Hanoï !» Pas de problème. Visitez Hanoï, visitez Halong, visitez la baie d'Halong terrestre et ensuite partez dans le centre ou dans le sud. Bah, ça dépend de la région. Février, partez dans le centre. Décembre, partez dans le sud et vous profiterez bien plus d'un voyage au Vietnam. Oui, vous écoutez peut-être ce podcast en vous disant « Mince, on n'aurait pas dû réserver le vol pour le nord » ou « Mince, on n'aurait pas dû faire ci ou ça ». Et oui, c'est le problème d'un voyage au Vietnam. Le Vietnam, c'est un pays compliqué pour lequel il faut bosser. Mais si vous vous êtes rendu compte de cette erreur avant d'arriver au Vietnam, ne vous inquiétez pas, il est encore temps de facilement modifier votre itinéraire. Où aller plus loin? Où trouver plus d'informations? Déjà sur le blog, hein, sur worldwildbreeze.net, vous trouverez pas mal d'articles sur le nord du Vietnam. C'est une zone technique difficile. Si vous ne la bossez pas, vous vous retrouverez à Sapa comme tout le monde ou à Azang en vous rendant compte que sans moto, c'est difficile de découvrir la région. J'ai parlé de technique, hein. C'est technique du point de vue des transports, c'est technique du point de vue des saisons, du riz, et c'est très 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 technique du point de vue de certains marchés. Hein. Je vous ai parlé de calendrier lunaire, d'animaux du calendrier lunaire, c'est vraiment pas évident. Si vous cherchez d'autres informations, n'hésitez surtout pas à aller du côté de Vietnam Coracle, C-O-R-A-C-L-E, qui est un blog en anglais d'un mec qui vit au Vietnam depuis pas mal d'années. Alors maintenant, il y a d'autres personnes qui écrivent dessus, je crois. Mais vous trouverez aussi pas mal d'informations. Et essayez dans l'idée de chercher des blogs de voyageurs, c'est-à-dire du vrai blog, du mec qui allait vraiment par lui-même. Faites très attention au Vietnam, puisque généralement la première page de Google est un peu monopolisée par pas mal d'agences qui créent beaucoup, beaucoup de contenu, et souvent un contenu qui ne va pas vous apporter grand-chose. Faites aussi très... Alors je dis souvent, il y en a quelques-uns qui sont bien. Je généralise encore une fois. Mais faites très attention à un truc que je vois souvent, c'est sur les groupes de voyages sur Facebook, sur le Vietnam, sur lequel je suis, où il y a toujours des gens qui disent « Hey, on arrive, on cherche ça !» Et là, vous avez tous les guides qui vont vous envoyer des messages, tous les mecs des agences qui vont vous envoyer des messages, et il n'y a personne qui répond d'ailleurs à vos conseils. Et souvent, ils vous disent « Hey, regardez vos messages privés !» Parce qu'ils vous envoient juste des trucs pour réserver ce qu'ils ont besoin pour faire de l'argent. Donc faites attention à ça. Dans l'idée, le nord du Vietnam, c'est très technique. N'hésitez surtout pas aussi, c'est un point important, n'hésitez pas à taper sur YouTube Et n'hésitez pas, lorsque vous partez dans des coins vraiment paumés, vous ne trouverez pas d'infos. Si vous êtes sur YouTube ou vous cherchez des infos, allez sur Google Translate, tapez le nom de l'endroit, par exemple marché de Sinh Hồ, et vous le traduisez en vietnamien, et vous allez tomber sur Cho Sinh Hồ en gros. Et vous le tapez sur YouTube ou vous le tapez sur Google, et vous allez avoir beaucoup plus d'endroits. Sur le nord du Vietnam, vous avez quelques chaînes YouTube où il y a des mecs qui vont partout dans le nord du Vietnam. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Sapa TV, qui fait des millions de vues, et le mec, en gros, il se fait tous les marchés, il montre, alors là, il bouffe du chien, là, il bouffe ci, là, il bouffe ça. Et ça fait un paquet de vues, donc n'hésitez pas à chercher des informations directement dessus. Autre élément essentiel, si vous préparez votre voyage, si vous cherchez à savoir est-ce que je vais voir beaucoup de rizières ou pas, regardez sur Google Maps et passez Google Maps en satellite. Si vous passez Google Maps en satellite, vous verrez très facilement que les rizières en terrasse, ça se voit très bien sur Google Sat. Vous voyez vraiment les lignes qui se dessinent et ça vous permet de comprendre, ah là, il y a un village, là, il y a des rizières en terrasse. Du coup, lorsque vous partez dans des zones peu connues où vous trouvez très peu d'informations, regardez Google, passez Google sur Google Satellite et regardez s'il y a des zones où ça a l'air vraiment magnifique. C'est ce qui m'était arrivé notamment au nord-est de Lai Châu où j'avais vu, voilà, ouais, là, il y a beaucoup, beaucoup de rizières, il y avait quelques villages. C'est vrai qu'il y avait un peu de monde et c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de rizières. Du coup, on est passé par ces routes-là. Je pense que d'ailleurs, c'était les plus beaux paysages qu'on a vus sur la boucle de Sinh Hồ. Et ça fonctionne pour un peu tout. Ça vous permettra en fait de comprendre dans quoi vous mettez les pieds. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de rizières? Est-ce que ça a l'air beau? Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Est-ce qu'il y a des montagnes? Est-ce qu'il y a des rivières et ce genre de choses? Et ça, c'est vraiment, je pense, un bon conseil. Lorsque vous préparez votre voyage un peu différent, vous avez du mal à trouver des informations, passez sur du Google en vietnamien, passez sur Google Sat direct, passez sur Google Maps en format satellite et n'hésitez pas à cliquer directement sur Google Maps. Vous avez pas mal de mecs qui ont mis leur business sur Google Maps. Vous avez des avis, parfois qui sont traduits, parfois pas traduits. Vous n'allez pas fondamentalement changer votre itinéraire à cause de ça, mais vous allez peut-être trouver, ah bah là, cet hôtel-là, il a l'air moins pourri que les autres. Ah, il y a quelques bons avis. Ah, je peux voir des photos. Ah ouais, les chambres ont l'air correctes, il y a une clim. Ah, là, il y a un homestay, je ne le connaissais pas. Ah, bah, le homestay, ah, je vois les photos. Ah, non, ça a l'air nul. Oh là là, non, faut surtout. Ça va en fait vous donner quelques clés pour un peu comprendre. N'hésitez pas aussi, si vous avez très peur en moto de passer par de la montagne, vous pouvez passer Google Maps en mode terrain, qui va vous donner en gros les élévations et qui va vous permettre de bien comprendre dans quoi vous mettez les pieds. J'y pense notamment lorsque vous avez. J'ai failli dire vous avez peur, mais j'étais dans le même cas que vous la première fois que j'ai fait la boucle de Hazang. Je savais que j'étais avec ma femme, on était deux sur la moto, il fallait faire gaffe, ils annonçaient de la pluie pour le lendemain. Je voulais vraiment avoir, entre guillemets, un peu comme un pilote de Formule 1 ou je ne sais pas moi, les coureurs du Tour de France. Et où est-ce que ça va être difficile, où est-ce que ça va être... Et en fait, si vous passez Google Maps sous format terrain, vous avez directement les élévations. Donc vous voyez 1400, 1300, 1200 et ce genre de trucs. Et parfois, c'est très rapide la descente ou la montée. Donc ça vous permet un peu de comprendre, ah ouais, là, il faut que je fasse vraiment gaffe en plus s'il pleut parce que là, il y a une descente de dingue ou une montée de dingue, il va me falloir de l'essence et compagnie. Google Satellite, Google Maps sous format satellite vous permet de comprendre le paysage. Est-ce qu'il va y avoir que de la nature ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des rizières en terrasse? Et Google en terrain vous permet en fait de comprendre dans quoi vous mettez les pieds. Est-ce que ça va beaucoup monter, pas beaucoup monter? Vous voyez par exemple, si vous faites l'est de Cao Bang, en fait ça monte pas tant que ça. Et quand ça monte et que ça descend, c'est progressif. Bah cool, j'ai partagé des excellents conseils dans ce podcast. Bah c'est l'heure de la conclusion. C'est déjà l'heure de la conclusion. Putain, si je continuais de parler, j'allais parler 20 minutes encore du nord du Vietnam. C'est assez cool parce que ça ne m'arrive pas tout le temps de prendre un tel kiff à parler du Vietnam, à donner des conseils. Mais c'est vrai que c'est des conseils un peu bêtes hein, sur comment utiliser un outil et ça permet vraiment de gagner vachement de temps. D'ailleurs, j'y pense aussi. Faites gaffe à ça. Si vous passez beaucoup de temps dans le nord du Vietnam, prenez Viettel comme carte SIM puisque c'est ceux qui ont la meilleure couverture dans les zones reculées du Vietnam. Viettel, V-I-E-T-T-E-L. Utilisez pas Mobifone ou ce genre de truc parce que généralement, la couverture est assez naze dans les montagnes du nord du Vietnam. J'espère que ce podcast vous a donné envie d'aller dans le nord du Vietnam. Alors, je pense que par moment, je ne vous ai pas donné envie d'y aller parce que j'ai parlé notamment de l'hiver ou ce genre de choses, mais ne vous méprenez pas sur ce point-là. En fait, le nord du Vietnam, il y a des moments où il faut absolument y aller et où ça va être le plus beau voyage d'une vie. Il y a des moments où il ne faut pas trop y aller bah parce que sinon, le climat, il est pourri, il n'y a pas de risque, ce genre de choses. Donc, faites bien cette différence-là. Regardez en fonction du calendrier, ok, j'y vais à la bonne période ou j'y vais pas à la bonne période. Et du coup, foncez si vous le pouvez. Faites aussi attention à ne pas voir trop grand du point de vue des transports. C'est un truc que je vois souvent dans les commentaires sur le blog. Des gens qui disent, on va là, on passe deux jours là, on passe trois jours là et compagnie. Allez doucement dans le nord du Vietnam, c'est le meilleur moyen d'en profiter et de vraiment découvrir. Allez vite directement et vous allez vous taper du bus avec les Vietnamiens qui vomissent et ça va pas être très, très, très cool. Encore une fois, cherchez beaucoup d'informations avant votre voyage au Vietnam. C'est la meilleure façon de ne pas vous planter. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à directement mettre des commentaires sur le blog. Je réponds à tous les commentaires. Évitez de me contacter directement sur Facebook ou Instagram. J'espère que ce podcast vous aura été utile. C'est un podcast que j'ai beaucoup préparé histoire d'avoir une certaine structure, parce que sinon, c'est une région sur laquelle je peux parler pendant des heures et ça va être difficile de comprendre. Déjà, je pense que sur certains points, et notamment sur les noms, ça a été difficile à comprendre, mais j'espère que c'était quand même assez digeste. N'hésitez pas du coup, je suis toujours disponible pour ceux qui cherchent des conseils pour le nord du Vietnam et j'ai pas de conclusion, je cherche ma conclusion mais j'en ai pas trop. Donc je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast qui sera à la prochaine pleine lune, exactement. Bye bye.